France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. La Covid-19 ronge les régimes politiques comme elle s'attaque aux individus. Elle vise les organes essentiels, à commencer par la tête. Les systèmes autoritaires n'y échappent pas et la Russie de Vladimir Poutine en apporte la démonstration. En mars dernier, au moment où le nouveau coronavirus apparaît à Moscou, l'homme fort du Kremlin, qui exerce le pouvoir sans discontinuer depuis 20 ans, obtient une modification de la Constitution et devient pratiquement président à vie. Depuis, la verticale du pouvoir, ce système centralisateur, personnalisé à l'extrême, dont le président russe a fait sa marque, eh bien ce système paraît flagellé tant la gestion de la crise a été déléguée aux autorités locales. La pandémie a mis à nu, comme ailleurs, les défaillances des infrastructures sanitaires, le désespoir des personnels soignants. Elle continue ses ravages et personne en Russie ne croit véritablement à la véracité de la comptabilité officielle qui affiche 4200 morts. Dans une conjoncture défavorable, accélérée par l'affaissement des marchés pétroliers, la crise économique s'aggrave au détriment d'un secteur privé que le régime néglige au profit des grands groupes publics et parapublics détenus par une poignée de fidèles oligarques. Comment Vladimir Poutine compte-t-il rebondir? La crise sanitaire a-t-elle fragilisé son emprise sur la société russe ou son retrait volontaire témoigne-t-il d'une habileté intacte? Le maître du Kremlin continue de pousser ses pions sur un échiquier mondial agité. Il tient à l'œil Donald Trump qui dénonce le traité de libre circulation aérienne. Il renforce sa présence en Libye et continue d'utiliser au passage tout ce qui peut gêner nos démocraties en Europe. La Russie de Poutine sous le choc de la Covid-19, c'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Tatiana Kastueva-Jean, bonjour. Vous dirigez bonjour. Le centre Russie Nouveaux États Indépendants à l'IFRI. Avec nous, Françoise Dosset, vous dirigez le centre d'études des mondes russes caucasiens centre européen à l'EHESS. Julien Vercueil, vous enseignez les sciences économiques à l'INALCO, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'être avec nous. Et j'ai pu enregistrer hier un entretien avec Irina Lagununa, qui est à Moscou, une éditorialiste qui est la co-directrice de la radio Radio Svoboda. Tatiana Kastueva-Jean, commençons par ce qui apparaît comme une tactique du président russe qui s'est mis très visiblement en retrait dès que la pandémie a attaqué la Russie avec une quinzaine de jours de décalage par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Quelle est votre explication?
Je commencerai par dire que ce printemps, Vladimir Poutine devait connaître deux moments très forts sur le plan international et sur le plan intérieur. Le 22 avril, une votation populaire devait avoir lieu pour clore le processus de réforme constitutionnelle que Vladimir Poutine a lancé le 15 janvier et qui lui ouvre en fait la porte, qui lui donne la possibilité de faire deux autres mandats, donc rester au pouvoir jusqu'en 2036. Je dis bien que c'est une hypothèse à ce stade-là, une hypothèse théorique. Et deuxième date importante, le 9 mai, la parade militaire et la célébration du 75e anniversaire de la victoire devaient voir revenir dans les tribunes des leaders internationaux, dont Emmanuel Macron, qui avait donné son accord. Donc c'est tout ce calendrier qui a été bouleversé par la crise du Covid. Et tout ça dans un contexte de chute des prix du pétrole. Or, on sait que l'économie russe est dépendante de la rente énergétique. Il y a à peu près 67% des exportations russes qui sont composées avec les hydrocarbures. Donc, il y avait plusieurs paramètres dans la gestion de cette crise. Et je pense que ces trois volets ont interagi et se sont influencés les uns des autres. Et Vladimir Poutine, je pense qu'il a été pris au dépourvu, il n'a pas prévu cette ampleur de la crise. Sinon, à mon avis, la réaction vis-à-vis du deal OPEP+ aurait été différente et probablement la gestion économique aurait été différente aussi. Je pense qu'on y reviendra dans l'émission. Donc en effet, il s'est mis en retrait, à mon avis, surtout pour éviter d'encaisser le coût éventuel des échecs qui pourrait ensuite affecter son taux de popularité et par conséquent aussi les résultats du vote du 22 avril qu'il espérait de préserver jusqu'au bout. C'est le 18 mars encore que Vladimir Poutine, donc c'est le moment où la France est déjà en confinement, et le 18 mars, Vladimir Poutine dit « tout est sous contrôle » et il donne la date de cette rotation populaire pour le 22 avril.
Et à partir de là, évidemment, le calendrier est à terre. Lui, il se retire dans sa datcha près de Moscou et en fait, il laisse les gouverneurs des régions, les différents responsables, en gros, se débrouiller sans vraie directive. Enfin, il faut dire que dans un pays tellement vaste, la situation a été très différenciée, bien évidemment, par rapport au coronavirus.
Le premier paramètre, c'est que il y a les situations qui sont vraiment très différentes en fonction des régions, et c'est Moscou qui, en gros, totalise avec plus ou moins mais la moitié des cas. Or, la Russie est grande, il y avait des régions qui ont été affectées très tardivement et qui sont peu touchées. Donc, au premier abord, hein, ça semble tout à fait logique et rationnel, en fait, de déléguer la gestion au gouverneur. Sauf que depuis le début des années 2000, Vladimir Poutine nous a habitués à autre chose, à la construction d'un vertical du pouvoir où tout le monde, y compris les gouverneurs, sont intégrés donc dans ce vertical et ont très peu de liberté de marge de manœuvre par rapport au centre fédéral. Ils ont aussi peu de ressources financières, hein, parce que le budget russe fait une péréquation entre les différentes régions, dont certaines sont donateurs, d'autres sont plutôt les receveurs de ces donations. Donc les gouverneurs étaient en vérité dans les conditions qui ne sont pas faciles, en devant montrer les bons chiffres pour prouver leur efficacité. Et l'efficacité de la gestion du Covid a été intégrée dans la panoplie, les fameux KPI, ce sont les coefficients pour évaluer l'efficacité des gouverneurs. Donc la pression était assez forte. Peu de moyens, l'opinion publique, les enjeux sanitaires, les enjeux économiques, ils se sont retrouvés dans une situation que je pense être loin d'être enviable en fait. Il y a eu deux commissions qui ont été créées avec le Premier ministre, avec le maire Sebanin. Et le visage en fait que les Russes vont retenir de cette crise, c'est plutôt le visage du maire de Moscou. Et c'est lui qui, dans ses mesures, a été suivi par le reste du pays, par les autres gouverneurs qui ont appliqué le même type de mesures sur leur territoire.
Précisément, j'ai demandé à Irina Lagunina, qui vit donc à Moscou, si les habitants ont l'impression que la pandémie est sous contrôle. Le confinement a été prolongé par le maire de Moscou jusqu'à la mi-juin, mais il est censé être assoupli à partir de lundi prochain. Sa réponse.
L'humeur à Moscou, l'état d'esprit est très contrasté. Moscou est une ville de 18 millions d'habitants. Une partie des moscovites en ont vraiment assez d'être confinés et ils ne comprennent pas véritablement pourquoi exactement ils doivent rester chez eux parce que les statistiques sont plutôt bonnes. Il semble qu'il y ait peu de cas parmi une population aussi énorme. Ils protestent vraiment contre ces mesures de quarantaine ou l'auto-isolement, comme ils l'appellent. Et une autre partie des moscovites sont horrifiés et ils écrivent sur Facebook et sur le réseau social russe Vkontakte qu'ils continuent de perdre des membres de leur famille, qu'il y a eu beaucoup de documents reçus à la suite de la mort des parents, disant qu'ils étaient morts de pneumonie plutôt que de la Covid-19 et qu'ils ne sont donc pas dans les statistiques.
Le scepticisme envers l'information officielle a eu pour résultat deux conséquences pour la Russie. La première, c'est le scepticisme envers le coronavirus lui-même, puisque les gens ont l'habitude de ne pas croire aux informations officielles, ou plutôt de les prendre avec scepticisme. Ils n'ont pas fait attention à la gravité de la situation. Ils n'ont pas véritablement compris les conséquences de la pandémie sur la société, sur l'économie, sur leur propre avenir. La deuxième étape, c'est au cours de l'épidémie elle-même. Les gens ne croient pas que les masques peuvent être utiles
Il ne croit pas que le confinement peut aider. Il y a beaucoup de scepticisme au sujet de la gravité du coronavirus lui-même. En général, les gens disent « non, c'est dangereux pour les personnes âgées ». Et maintenant, le gouvernement de Moscou fait état quotidiennement du nombre de décès de personnes de moins de 45 ans. C'est d'ailleurs la majorité des cas. Et il publie la mort de chaque jeune citoyen. Mais les gens le prennent encore très à la légère. Les gens n'y croient pas. Ils ne croient pas aux statistiques. Ils ne croient pas à quoi que ce soit qui vienne du gouvernement. Et c'est la conséquence du fait que les médias ont été transformés en organes de propagande, que les médias sont sous le contrôle de l'État, que les médias diffusent ou écrivent des slogans qui sont dictés par les autorités. Ils écrivent au sujet des promesses qui ont été faites aux populations et qui n'ont pas été tenues depuis au moins deux décennies. Oui, ces conséquences, cette méfiance vis-à-vis de l'information officielle a des conséquences très mauvaises pour la société. Je ne suis certainement pas en train de dire que les gens devraient croire le gouvernement, mais nous en sommes dans une situation de catch 22, un piège, une situation absurde de laquelle on ne peut pas sortir.
Françoise Dossé, je rappelle que vous dirigez le Centre d'études des mondes russes à l'EHESS. S'agissant des réactions de la société russe que vient de nous expliquer Irina, jusqu'à quel point la délégation de la gestion de la crise aux autorités régionales et locales, donc des responsables de terrain, ont mieux correspondu d'une certaine manière aux attentes sociales?
Alors on a observé face à la pandémie effectivement une grande différenciation des situations sur le territoire et surtout il me semble ça a mis en lumière des formes d'autonomie à la fois locale et sociale qui montrent aussi une forme d'adaptation de la société à ce nouveau contexte. Alors la société est quand même très touchée aussi par la dégradation de ses revenus économiques hein, puisqu'il y a eu peu de mesures quand même de soutien économique dans le contexte du confinement, donc on voit des diminutions des salaires, des licenciements, des retards de paiement des salaires. Et en fait, toute proportion gardée, on a parfois l'impression que ça fait ressurgir les fantômes d'un passé qui semblait révolu et qui était ce passé pré-poutinien, disons, des années 90. Vladimir Poutine a beaucoup construit sa légitimité, en fait, en opposition à ce qu'il appelait le chaos des années 90. Or, en fait, ce qu'on voit ressurgir, alors de façon plus discrète, mais tout de même, ce phénomène de fédéralisation ou même de fédéralisme asymétrique qui était assez caractéristique des années 90, on voit cette dégradation des revenus de la population. Et en réponse, en fait, des formes d'auto-organisation dans la société, avec chez certains la recherche de modes de survie, notamment en retournant vers les fameuses datchas, hein, qui sont ces maisons avec des jardins dans les campagnes autour des villes pour essayer de s'adapter et d'avoir des pratiques d'autosuffisance. Donc, on voit hein, ces phénomènes d'autonomisation dans la société et au niveau des pouvoirs locaux, probablement, qui se mettent en place et qui semblent en fait montrer que ce vernis en fait de transformation depuis 20 ans, ce vernis n'est peut-être pas si épais que ça. On a le sentiment parfois qu'il se craquelle, en fait, à l'épreuve de cette crise.
Où est passée l'opposition, où ce qui en tient lieu? On sait à quel point, à chaque élection, encore que les dernières élections municipales à Moscou avaient montré une certaine vigueur du côté des partisans de Navalny en particulier, on ne les entend pas ou sont-ils très actifs sur les réseaux sociaux?
Alors, ils sont actifs sur les réseaux sociaux et dans le même temps, la pression s'est maintenue, hein, malgré l'épidémie, contre, je dirais, les cercles d'opposition ou critiques hein, traditionnels. Là, je voulais juste prendre l'exemple de l'association Mémorial, hein, qui est en permanence mise à l'amende, là, qui vient encore hier de recevoir une nouvelle amende. Ils en sont, je crois, à 5,2 millions de roubles d'amende au titre titre de leur statut d'agent de l'étranger. Donc on voit que la pression ne se lève pas sur les sur ces mouvements d'opposition. On a vu aussi des arrestations de journalistes hier et avant-hier. Hein.
Il y a eu beaucoup de controverses autour des bonus qui doivent être versés aux médecins et au personnel sanitaire. Et ça a donné lieu, semble-t-il, à un grand capharnaüm, en tout cas au niveau...
Oui, et c'est vrai qu'on voit apparaître de nouveaux groupes protestataires et mobilisés, notamment parmi les personnels médicaux. Alors ces personnels médicaux étaient déjà mobilisés avant l'épidémie. Déjà en 2019, il y avait eu des manifestations, des protestations dans les hôpitaux contre la misère en fait des salaires. Et là, donc des primes avaient été promis aux médecins et au personnel médical, et visiblement les primes n'ont pas été versées partout. Donc ça donne lieu à des protestations. Et il y a aussi une polémique là sur le nombre de médecins qui seraient morts de la Covid-19. Donc il y a aussi ce sujet d'inquiétude dans le milieu médical. Et puis on a vu aussi durant les dernières semaines des manifestations dans certaines régions, je pense notamment au Caucase du Nord, hein, où on a vu des manifestations de personnes qui protestent contre les conséquences économiques du confinement. Et puis des formes aussi très nouvelles de mobilisation en ligne avec l'organisation dans plusieurs villes du pays de manifestations virtuelles où en fait les gens manifestent en se géolocalisant notamment sur les cartes de l'application Yandex. Donc une certaine aussi inventivité hein, pour essayer de reprendre la parole dans un contexte où le débat public est très contrôlé.
Julien Vercueil, je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques à l'INALCO. On est frappé de voir la timidité des mesures annoncées par le Kremlin et par le gouvernement pour aider les ménages russes dont Françoise Dossé nous rappelait à l'instant les conditions précaires. Je crois qu'un quart de la population n'a pas de filet de sécurité. Et qu'a fait le gouvernement? C'est un mois chômé payé, si j'ai bien compris, et c'est presque tout.
Oui, alors pour prendre un peu la mesure de la réponse gouvernementale, il faut peut-être mettre cette réponse en contexte. D'abord, elle fait suite à un premier trimestre qui a été relativement satisfaisant pour l'économie russe. Finalement, la croissance n'a pas été touchée au premier trimestre, et ça reflète ce que vous disiez en tout début d'émission, c'est-à-dire le léger décalage que la Russie enregistre par rapport, par exemple, à l'Europe occidentale ou aux États-Unis en matière d'impact de la pandémie. Il y a un délai de 15 jours à peu près, effectivement, et il y a eu un délai de 15 jours dans la mise en place des premières mesures. Et ces premières mesures, qui sont des mesures de confinement, elles ont évidemment les mêmes effets que celles que l'on a pu observer en Europe occidentale, c'est-à-dire de geler une très grande partie de l'activité. Les premiers résultats que l'on a aujourd'hui, qui sont encore que des estimations très provisoires et parcellaires pour le mois d'avril, c'est-à-dire un mois, le premier mois de confinement, c'est moins 28% pour l'activité. Donc face à ce décalage, la réponse gouvernementale a été un petit peu, comme vous l'indiquiez en matière sanitaire, une réponse en demi-teinte, une réponse un peu attentiste. C'est d'autant plus étonnant qu'on aurait pu se dire que compte tenu des marges de manœuvre fiscales et budgétaires du gouvernement, on a un fonds souverain qui représente 9,2% du PIB, on a une dette publique qui représente 14,7% du PIB.
Donc ça fait rêver, ça fait rêver par rapport à nos chiffres à nous.
C'est tout simplement 100% de moins du PIB que la France. Donc on se retrouve face à une possibilité de réponse qui semble-t-il est importante. Alors je pense qu'on reviendra sur le deuxième aspect de l'équation qui est le choc extérieur venant de la chute des prix du pétrole. Mais même sans tenir compte de cela, on aurait pu s'attendre à des réponses importantes. Alors qu'est-ce qu'on observe ? On observe le fait que on va absorber la chute des recettes fiscales, qui est estimée pour l'instant de l'ordre de 4,7% du PIB à peu près, on va l'absorber totalement et maintenir le niveau des dépenses publiques. Mais on ne va pas créer un afflux supplémentaire de dépenses, en pourcentage du PIB tout du moins. Par contre, c'est évidemment, comme partout ailleurs, le budget de l'État qui va absorber la différence. Et donc, finalement, effectivement, la plupart des observateurs s'étonnent de la modestie des mesures sur les plus fragiles, concernant les plus fragiles, que sont d'un côté, vous l'avez dit, les ménages, dont on s'attend non pas forcément à une explosion du chômage, comme par exemple aux États-Unis ou même dans certains pays d'Europe occidentale, mais plus certainement à une chute forte de leur revenu réel. On s'attend à une chute du revenu réel au moins aussi importante que celle que l'on a connue en 2015, lors de la dernière crise importante de l'économie de la Russie. Et l'autre partie fragile de l'économie russe, c'est les PME, qui sont insuffisamment nombreuses, insuffisamment soutenues, et pour lesquelles on s'est contenté pour l'instant de mettre en place un plafond sur le taux d'intérêt par les banques. Les mesures qui sont prises à l'échelle locale peuvent l'être par les oligarques qui tiennent telle ou telle grande entreprise dont dépendent une partie de la population d'une ville. Et donc là, on a vu des effets très concrets de ces mesures prises dans une forme de paternalisme que l'on a déjà rencontré par le passé. Mais à l'échelle nationale, pas encore de grands plan de soutien et de relance de l'économie, en tout cas pas à la mesure de ce que l'on a pu observer dans d'autres pays.
Et ça, à un moment où, semble-t-il, le revenu moyen, d'après ce que j'ai pu lire, mais peut-être allez-vous me corriger, a reculé de 7,5% par rapport à ce qu'il était à 2014, avant l'annexion de la Crimée et avant les sanctions occidentales. Donc ça veut dire quand même une classe moyenne appauvrie.
En fait, ce qui se passe, c'est plus dans la partie de la classe moyenne qui a les revenus les plus faibles. C'est-à-dire entre la grande pauvreté et la classe moyenne au sens occidental du terme, où là on a des revenus qui sont assez volatiles et qui ont été touchés très fortement, comme vous l'avez dit, après 2014-2015 par l'inflation, qui a rogné sur ces revenus réels parce qu'elle était importante pendant un an et demi. Donc ça a fait chuter de façon importante le revenu. Le revenu a cessé de chuter relativement récemment, en fait, uniquement en 2018. Et donc là, il est évident que non pas pour des raisons d'inflation, parce qu'on ne pense pas que l'inflation va augmenter très fortement, on risque d'avoir un léger accroissement d'inflation, mais pas forcément une reprise forte de l'inflation, mais plus tout simplement à cause de la baisse des salaires, de la perte de revenus informels, de l'ensemble des éléments qui sont les conséquences de l'arrêt de l'activité, d'une grande partie des activités en Russie, activités de service en particulier. Mmh. Là, on a à nouveau une chute de, alors pour l'instant, on pense que c'est 2% hein, sur 2020, mais ça peut être plus violent, évidemment, en fonction de la durée de la crise.
On sait aussi, à observer les études d'opinion, que la politique très offensive de Vladimir Poutine sur le plan international a rendu aux Russes une fierté légitime, une fierté qui devait d'ailleurs être exaltée lors des cérémonies commémorant les victoires de la Deuxième Guerre mondiale. Et Tatiana Kastueva-Jean nous expliquait d'entrée qu'elles ont été reportées au 24 juin. J'ai demandé à Irina Lagunina si, à son avis, Vladimir Poutine pouvait être tenté à nouveau de distraire ou de ranimer la flamme patriotique russe en intervenant de façon plus active encore sur la scène internationale.
Je suis absolument certaine que tel sera le cas, parce que le Kremlin en a besoin, pas seulement pour lui, pour sa position internationale, mais aussi pour sa situation en Russie. La situation économique est très mauvaise et elle ne va pas s'améliorer prochainement. Ça va être une sortie douloureuse de la situation actuelle causée par la COVID et les prix très bas du pétrole. Le Kremlin aura besoin de distraire les citoyens russes de leurs infortunes domestiques et le seul outil qu'ils pourront utiliser, c'est la politique étrangère. La position internationale de la Russie, montrer que la Russie est la grande superpuissance du monde avec beaucoup d'influence, et qu'elle est très respectée par les autres. C'est le seul outil que le Kremlin ait en ce moment. Et très certainement, la Russie sera très active à l'étranger.
Benjamin Haute-Couverture, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. On a vu que Moscou, jeudi dernier, a publié un communiqué extrêmement martial, affirmant que le comportement des États-Unis, et plus précisément de leur président, je cite, « est toujours plus dangereux ». Est-ce que cela veut dire, selon vous, qu'au-delà des problèmes de la Chine et de Hong Kong, dont il a été fortement question à la Maison-Blanche hier, la décision de Donald Trump annoncée il y a quelques jours de mettre fin à ce qu'on appelle le traité ciel ouvert a vraiment pris le Kremlin à rebrousse-poil. Mais expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que ce traité au nom assez poétique, le traité ciel ouvert ?
Oui, bonjour. Le traité ciel ouvert, qui est donc la traduction du traité Open Sky, est un traité qui a été ouvert à la signature en 1992, qui est entré en vigueur en 2002, qui est un traité pas bilatéral, hein, c'est un traité multilatéral qui compte 34 États parties, bientôt 33 sans doute, et c'est une mesure de confiance et de sécurité qui est basée sur un mécanisme de transparence. Le but de ce mécanisme, c'est de prévenir l'accumulation et le mouvement massif de systèmes d'armes dans les pays qui en font partie et entre ces pays. Et ce traité permet des vols de surveillance non armés à court préavis, 72 heures, entre les États parties sur la totalité de leurs espaces aériens. Alors, cette décision américaine de sortir du traité, ce qui sera effectif dans 6 mois, hein, conformément à la lettre du traité, s'il n'y a pas de revirement de l'administration d'ici là, c'est effectivement d'abord un événement américain, hein, washingtonien, qui est assez attendu en fait, parce qu'il est conforme à la manière de faire de l'administration en place, on l'avait vu avec le traité FNI l'année dernière, mais qui est très en rapport, en effet, avec une réalité russe. Et cette réalité russe, c'est celle de la violation ou du non-respect quasi systématique des grands traités de maîtrise des armements conventionnels et nucléaires qui ont été négociés à la fin de la guerre froide, pour le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en 1987, et au sortir de la guerre froide, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, document de Vienne, et ce fameux traité ciel ouvert, puisque ces trois-là, FCE, document de Vienne et Open Sky, constituent un petit peu le triptyque de l'architecture de sécurité en Europe depuis lors. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les Russes font mine de s'émouvoir de la sortie américaine, en réalité, ils s'y attendaient évidemment. Dans une déclaration de retrait d'ailleurs du département d'État le 21 mai, je vous rappelle que Mike Pompeo avait bien pris le soin, comme ça avait été le fait 6 mois avant de quitter le traité FNI en 2019, de conditionner le retrait américain au retour de la Russie à un respect intégral du traité. Alors là, de quoi parlait-il ? Parce qu'évidemment, les déclarations russes ne parlent pas du fond du problème. Il parlait, un, du fait que la Russie a refusé l'accès au vol d'observation dans un corridor de 10 km le long de sa frontière avec les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Il parlait du fait que la Russie a désigné, dans le cadre du traité, un aérodrome de ravitaillement en vol certifié ciel ouvert en Crimée, donc de manière ce qui est une entorse au traité pour la totalité des autres États parties. La Russie a également imposé illégalement une restriction sur la distance de vol au-dessus de Kaliningrad, et puis je donne une dernière illustration, si vous voulez, mais il y en a vraiment pas mal, hein, depuis 2004. En 2019, la Russie a refusé de manière totalement injustifiée un vol d'observation commune aux États-Unis et au Canada, au-dessus d'un grand exercice militaire. Et c'est typiquement ce pourquoi le traité ciel ouvert était fait, si vous voulez. Alors, la question
qui
se pose...
Mais donc, ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de parallélisme entre Donald Trump, qui se retire de plusieurs textes, non seulement en ce qui concerne la défense, mais on le sait dans d'autres... territoires qui jusque-là faisaient l'objet d'accords multilatéraux. Donald Trump, qui paraît-il, a été très vexé parce que les Russes avaient survolé un de ses parcours de golf. Mais enfin, là, ce sont probablement des mauvaises langues. Mais donc, parallélisme entre Trump et Poutine, qui fait semblant, comme vous le disiez, de s'émouvoir de l'attitude américaine, mais qui ne fait rien pour rendre à ce que vous appelez le triptyque de sécurité en Europe sa raison d'être. Donc ça veut dire que les autres membres de l'OTAN, à commencer par nous, les Européens, on est comme deux ronds de flanc, si je peux me permettre.
Mais un petit peu, on a une situation un petit peu embarrassante, parce qu'on ne veut pas quitter un traité dont on sait qu'il n'offre plus de garantie de sécurité réelle. Alors, la question qui se pose, et ça c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les autres pays de l'OTAN, même si tout le monde souhaite, à part les États-Unis, conserver les traités existants, en particulier ciel ouvert, pour pouvoir continuer à négocier ce qui pourrait être une adaptation du traité aux modifications du contexte stratégique. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, et là je veux dire, on serait peut-être dans une question de méthode, si vous voulez. On est dans la méthode Trump, qui est la maximisation de la pression pour avoir des résultats diplomatiques dans un deuxième temps, et puis la méthode, disons, plus traditionnelle, qui consiste à rester dans les cadres et améliorer l'existant. Mais la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi la Russie s'écarte sciemment de ces cadres juridico-politiques qui ont été établis à la fin de la guerre froide. Alors, ils correspondent, d'après le pouvoir, à des instruments qui ont été imposés dans un temps où la Russie était en position de faiblesse. Je vous rappelle que le traité FNI est honni par le président Poutine, par exemple. Et ils ne sont plus, parce que c'était vraiment une réalité de l'ère Gorbatchev, et ils ne sont plus adaptés à la réalité du monde stratégique contemporain, à la fois sur un plan géopolitique et sur un plan technologique et militaire, d'autre part. Et ça, c'est assez vrai. Et donc, la Russie demande une remise à plat de tous ces cadres et s'en donne les moyens, parce que l'ensemble de la politique étrangère qui est fondée sur cette remise en cause de ces cadres doit être, par des politiques, disons, de non-respect, doit être étroitement corrélée à la mise à niveau et à la modernisation de l'outil militaire suite à la vaste réforme qui a été engagée en 2008. Et là, je parle en particulier du programme d'armement décennal qui a été lancé en 2011 et qui a été financé à hauteur de 600 milliards de dollars. Et la modernisation des équipements et des réformes, disons, plus structurelles de l'armée ont été déterminantes, un, pour l'engagement de la Russie à l'extérieur, en Syrie en particulier, on en reparlera peut-être, mais aussi pour soutenir ce type de posture diplomatique beaucoup plus agressive, qui permet de parler d'une réémergence de la Russie aujourd'hui sur la scène stratégique, alors peut-être pas mondiale, disons, comme ça a été le cas pour l'URSS dans les années 70, mais en tout cas européenne, transatlantique et certainement moyen-orientale. Donc vous voyez, ça va assez loin, si vous voulez. Cette politique est structurée. Voilà, très pensée.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Précisément, Julien Vercueil, jusqu'à quel point est-ce que Vladimir Poutine a les moyens économiques de telles ambitions ? Benjamin Haute-Couverture vient de mentionner un chiffre qui est phénoménal. Or, l'économie russe est toujours une économie de pays émergents qui dépend, je crois, à 50% du pétrole et du gaz. Et on voit à quel point, sous le double effet d'une crise pétrolière enclenchée pratiquement avant la pandémie et sous l'effet, bien sûr, de la pandémie, les marchés pétroliers sont en déconfiture.
Oui, je crois que ça nous permet de revenir à la question du double choc, en fait, que l'économie de la Russie est en train de subir. On a commencé tout à l'heure par le choc interne, qui est un choc commun à l'ensemble des pays du monde, qui se sont retrouvés dans une situation où ils étaient obligés de faire cesser un certain nombre d'activités essentielles à la croissance économique. Donc ça, c'est le premier choc. Mais avant ce premier choc pour la Russie, il y a eu un autre choc, qui est le choc pétrolier. Et juste pour mémoire, il faut observer que c'est le troisième contre-choc pétrolier que doit encaisser la Russie depuis 2008. Il y en a eu un suite à la crise des subprimes qui s'est traduite par une chute forte des prix du pétrole après des sommets historiques en 2008-2009. Il y en a eu une autre plus récemment en 2014-2015. Et nous en avons une troisième avec là des niveaux de prix qui ont même pu atteindre des niveaux négatifs temporairement.
Donc c'est le troisième. Mais là, Vladimir Poutine paie aussi le mauvais sa tactique qui a véritablement échoué. son bras de fer avec l'Arabie Saoudite n'a pas marché, et son bras de fer avec Donald Trump et l'industrie pétrolière américaine, l'industrie de schiste en particulier, non plus.
Oui, là, sur ces questions-là, les kremlinologues se demandent si ce n'est pas le Igor Sechin, le président de Rosneft, qui est en fait est allé un peu loin dans l'impression qu'il avait de toute puissance en disant qu'il fallait aller au clash avec l'Arabie Saoudite. Moi, je ne suis pas kremlinologue, donc je ne suis pas sûr de cette explication-là. Mais le fait est que, effectivement, c'est à la suite d'un conflit au sein de l'OPEP Plus, qui est donc cet assemblage de pays membres de l'OPEP et notamment de la Russie, qu'a eu lieu ce différend fort. L'OPEP est sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite demandant une baisse à tous les membres, plus les membres disons partenaires de la production, étant entendu que ça arrivait à un moment où l'on voyait bien que la demande, et en particulier la demande de la Chine, de pétrole, était en train de fléchir. Ça se voit très 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 bien sur les courbes. Hein. On voit très bien les prix du pétrole commencer à fléchir à partir de janvier 2020. Et donc, la Russie n'a pas voulu, et il y a eu un décrochage très violent, début mars, des prix du pétrole. Et depuis, ces prix se sont restabilisés temporairement à un niveau qui est de l'ordre de 30 dollars le baril, ce qui est très, très en dessous du niveau projeté pour atteindre un équilibre satisfaisant du point de vue budgétaire. Et là, j'en viens à votre question, c'est-à-dire que on est à ces niveaux de prix, à un niveau qui n'a pas été anticipé par le gouvernement, et c'est la raison pour laquelle les réponses pour l'instant budgétaires ont été si prudentes, à mon avis. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que certes, la Russie n'est pas fortement endettée, mais que son accès aux marchés financiers internationaux est limité. Il est limité en particulier par les sanctions américaines qui pèsent sur les banques américaines qui viendraient se doter directement de titres de dette russes. Donc, ça ne sera pas très facile, même si pour l'instant c'est encore possible, pour la Russie d'émettre des obligations d'État à l'avenir si le déficit budgétaire venait à être important sur une longue période. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que à la suite de la crise de 2008-2009, on a eu une impulsion budgétaire tout à fait considérable qui a été mise en place par le gouvernement pour lutter contre les effets de la chute des prix du pétrole sur l'économie russe. Cette impulsion budgétaire a été de l'ordre de 10% du PIB et ça n'a pas empêché la Russie de chuter de 7,8% du PIB, son PIB de chuter de 7,8% l'année d'après. Donc même lorsque l'État essaie de s'opposer de façon extrêmement volontariste à un choc qui vient de l'extérieur, il a du mal à atteindre ses objectifs. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on touche du doigt? On touche du doigt les conséquences d'un régime d'accumulation extraverti rentier, c'est-à-dire d'un régime d'accumulation qui repose de façon excessive sur les revenus du pétrole, que ce soit pour ses grandes entreprises, que ce soit pour ses exportations et ses revenus en devises, et que ce soit pour les revenus de l'État lui-même.
Précisément, Françoise Dossé, pour les classes moyennes russes, avec lesquelles Vladimir Poutine, en 20 ans, a passé une sorte de contrat tacite, c'est-à-dire j'assure un meilleur niveau de vie, en fonction bien sûr des aléas des cycles économiques, mais enfin en gros votre niveau de vie augmente, je vous rends une fierté nationale légitime. En échange, votre liberté d'expression, ce que nous appellerions nous les libertés démocratiques, eh bien, on les met sous le boisseau. Jusqu'à quel point est-ce que la pandémie a été pour un régime qui surveille quand même intensément ses oppositions et qui utilise la panoplie numérique qui est maintenant à la disposition des régimes autoritaires, jusqu'à quel point est-ce que la pandémie sert le régime à accroître la surveillance sociale?
Il me semble que la dégradation de la situation économique dont on vient de parler porte des risques d'apparition de mouvements de protestation ou de critiques dans la société. Et c'est peut-être cela qui justifie effectivement le renforcement des mesures de surveillance ou de contrôle de la population, notamment par l'usage des nouvelles technologies. Alors, cette tendance, elle était visible là aussi bien avant la pandémie, hein, puisque l'année dernière a été adoptée adopté une loi sur la souverainisation de l'internet russe, qui montre en fait cette volonté de mieux contrôler l'espace numérique à l'intérieur du pays et de limiter les échanges avec le web international, je dirais, donc une volonté de protection face à l'internet mondial. Et cette tendance est accentuée avec la crise sanitaire, puisque on a vu un recours massif en fait aux nouvelles technologies pour essayer de contrôler et de surveiller la population, soit par l'usage de caméras à reconnaissance faciale, notamment à Moscou, pour vérifier que les personnes infectées respectaient bien la quarantaine, soit par l'usage d'autorisation électronique sous forme de QR code pour se déplacer, ou encore la mise en place d'applications de traçage des malades dans la population. Donc un usage très important de ces nouvelles technologies qui fait craindre en fait aux défenseurs des droits de l'homme et des libertés que ces mesures se perpétuent même si l'épidémie elle disparaît. C'est-à-dire qu'il y a le risque en fait que cette surveillance demeure même après l'épidémie. Et donc là aussi ça fait surgir donc des inquiétudes dans la population, mais ça montre aussi des formes de là à nouveau d'autonomie dans la société, avec chez certains citoyens russes une habileté aussi à circuler dans cet espace médiatique contrôlé. Et on voit bien que si le contrôle est assez fort sur les médias, sur les réseaux sociaux, là on voit des contenus qui circulent qui sont beaucoup plus divers, des sources d'informations beaucoup plus presque pluralistes, je dirais, même si la qualité de ces sources évidemment peut être sujette à caution. On voit aussi les internautes s'emparer d'applications comme Telegram, par exemple, qui est très populaire en Russie, alors que cette application est officiellement interdite en Russie. Mais les autorités n'ont pas réussi techniquement à bloquer Telegram, au point même que, très paradoxalement, certains ministères, là, pendant la crise, ont eu recours à cette application Telegram, notamment pour informer leurs ressortissants à l'étranger. Donc on voit bien aussi tous les paradoxes et les limites de cette politique de surveillance numérique.
Est-ce qu'il y a une sorte de lassitude de l'opinion, au-delà des problèmes économiques aiguisés par la pandémie, mais une certaine lassitude vis-à-vis des actions extérieures du Kremlin, et notamment en Syrie ou en Libye, où il y a des moyens quand même considérables qui sont déployés, aussi bien militaires que financiers? Est-ce que l'opinion publique commence à dire qu'il faudrait mieux dépenser tout cet argent chez nous?
Alors en fait, dans ce qu'on observe un petit peu sur dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, etc., en fait, ces questions de politique étrangère se passent souvent en fait au second plan. C'est-à-dire que les citoyens russes sont plus préoccupés par des enjeux qui sont des enjeux assez locaux, des enjeux écologiques par exemple. On a vu beaucoup de mobilisations ces derniers temps sur les questions écologiques, le problème de la gestion des poubelles par exemple, et des entrepôts de déchets ménagers qui suscitent des mobilisations très locales. On voit aussi des mobilisations de type économique ou social, mais en fait de façon générale la question de ces interventions internationales est relativement peu discutée, me semble-t-il, dans la société russe, où l'inquiétude porte surtout sur des enjeux liés à la vie quotidienne, à des enjeux locaux et des enjeux intérieurs au pays, me semble-t-il.
Benjamin Houde-Couverture, la pandémie n'a pas empêché Vladimir Poutine de continuer à agir sur la scène internationale. Il suffisait d'ailleurs de l'observer, l'air extrêmement morne, écoutant à la télévision qui le retransmettait, je crois, de façon différée, mais enfin écoutant interminablement les gouverneurs parler de la pandémie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est évidemment son action internationale, et Washington accuse la Russie depuis quelques jours d'avoir envoyé des avions de chasse en Libye et de maintenir une pression forte en Syrie. Jusqu'à quel point, selon vous, la politique du Kremlin sur ce plan-là va continuer d'absorber des moyens importants et justifier un maintien, sinon une augmentation des dépenses militaires?
Écoutez, selon moi, pour le coup, vraiment, la région moyen-orientale dans son ensemble est devenue une véritable priorité de la politique étrangère et de sécurité russe, et qui va s'inscrire dans le long terme, et qui s'inscrit déjà dans de longues années de pratique. Il y a trois cas qui sont intéressants à observer, qui sont distincts, mais parmi d'autres, mais disons trois cas schématiques qui sont intéressants, c'est un, le cas iranien, le soutien diplomatique et économique à l'Iran est désormais ancien, hein, il s'est traduit notamment par la livraison du premier réacteur nucléaire de puissance civile dans le pays à Bouchehr. C'est un soutien dont les Iraniens ont excessivement besoin, hein, dans leur gestion du contentieux nucléaire avec la communauté internationale depuis 2003. Et c'est un soutien qui distingue l'Iran des autres puissances impliquées et qui lui permet de se singulariser avec la Chine, hein, depuis bientôt 15 ans. Mais c'est une singularité qui est prudente, hein, bien sûr, puisque la Russie est partie du jeu plurilatéral, hein, en particulier dans le cadre du plan d'action global commun, hein, ce fameux accord nucléaire de juillet 2015 qui a été remis en cause en mai 2018 par le président Trump, mais dont sont également parties la Chine, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc il y a déjà un gros pôle de politique iranienne. En Syrie, le soutien militaire, cette fois, au régime de Bachar el-Assad a été l'occasion, un, d'affirmer le retour de la Russie au Moyen-Orient. C'est un leitmotiv depuis les printemps arabes, face à ce qui est perçu comme une véritable volonté occidentale de redessiner la carte de la région selon des intérêts qui sont des intérêts américains et occidentaux. Deux, ça a été l'occasion d'illustrer la réémergence du pays comme puissance militaire, et y compris aux yeux des pays de l'OTAN. Je vous rappelle des capacités stratégiques qui ont été utilisées et qui ont été exhibées, qui participent aussi, même indirectement, de la posture de dissuasion russe par ailleurs. Et troisièmement, ça a été l'occasion d'éprouver les matériels, avec des conduites de retour sur expérience, hein, des retex par les militaires qui ont été faites de manière systématique. Et le succès de la campagne militaire russe en Syrie, d'une certaine manière, efface un peu les mauvais souvenirs de la campagne de Géorgie en 2008, et s'offre, un peu comme vitrine, si vous voulez, en particulier aux Chinois d'ailleurs, comme une illustration de ce que désormais les forces russes modernes savent faire. Et puis il y a la Libye. La Libye, il y a effectivement les chasseurs MiG-29 et les bombardiers Sukhoi-24 qui ont été transférés depuis la Syrie et mis à la couleur de l'armée, disons, il y a quelques jours. Ça illustre un prolongement de cet interventionnisme russe au Moyen-Orient, avec la Syrie comme tête de pont. Mais ça s'inscrit, je dirais, quand même là, de manière un petit peu particulière, dans un dialogue assez complexe avec la Turquie, pour le coup. Mais comme
oui,
ce fut
en fait,
le cas,
qui est un dialogue Syrie, ancestral, un dialogue ancestral, entre les tsars et les ottomans.
Absolument. Et qu'on a retrouvé en Syrie, et qu'on retrouve là, en Libye, dans ce cas depuis un an. C'est un dialogue musclé, c'est un dialogue tendu, c'est un dialogue effectivement très ancien, mais qui est un dialogue qui, jusqu'à présent, a su préserver les intérêts des deux parties. Et un dialogue qui n'a jamais qui n'a jamais oublié, si vous voulez, l'opportunité de front commun contre les positions occidentales, ce qui met souvent d'ailleurs la Turquie en porte-à-faux comme membre de l'OTAN. Le jeu des alliances russes au Moyen-Orient, hein, que ce soit en Syrie, au Liban, en Iran, c'est un jeu complexe, c'est un jeu qui est mouvant aussi, c'est un jeu qui n'est pas très solide, et qui se situe un petit peu entre opportunisme politique, intérêts occidentaux de circonstances, espèce de consolidation de tête de pont diplomatique dans le cas iranien, ça c'est important, et militaire dans le cas syrien très réellement, mais une politique très très pragmatique. Mais à l'évidence, les Russes, on peut le dire aujourd'hui, pour répondre à votre question initiale, sont de retour au Moyen-Orient, après quasiment 20 ans de retrait, et comptent bien y rester, et ils sont devenus déterminants dans le jeu diplomatique et militaire régional, et on l'a vu, rappelez-vous, il y a quelques années, avec la solution diplomatique qui avait été fournie par la Russie, lors de la première crise chimique en Syrie en 2012-2013, la Russie, incitant son allié à l'époque à ratifier, de manière assez cynique d'ailleurs, hein, la convention sur l'interdiction des armes chimiques, puisque ça n'a pas du tout empêché le régime de Bachar el-Assad de le violer copieusement dès 2014.
Absolument. Une dernière question, Benjamin Houdecouverture. Vladimir Poutine donc a annoncé que le défilé de la victoire qui aurait dû avoir lieu le 9 mai aura lieu le 24 juin. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce défilé soit l'occasion précisément de dévoiler les nouveaux armements qui avaient été annoncés dans un discours de 2018, je crois?
Alors écoutez, ça peut être effectivement intéressant parce que ce sera les commémorations du 75e anniversaire. Et on avait pu voir, rappelez-vous, fin avril 2019, donc lors des préparatifs de commémoration du 9 mai l'année dernière, quels seraient les matériels exhibés au cours de la Grande Parade à Moscou. Alors cette année, le report ne l'a pas permis, ne le permet pas pour le moment, mais en général, depuis plusieurs années, c'est l'occasion de montrer des équipements nouveaux, hein. Comme dans tous les pays, disons, il n'y a rien de vraiment très original là, pour illustrer, mais ce qui est une réalité forte en Russie et importante sur le plan politique, la modernisation de son outil militaire depuis 2011. C'est une fonction des parades, hein, c'est une fonction qui est très utile, et c'est l'une des raisons pour lesquelles en 2017, d'ailleurs, une étude d'opinion de l'Institut indépendant Levada avait révélé que 58% des Russes font désormais davantage confiance à leur armée, ils étaient 31% en 2005, et 84% pensent qu'elle est capable de défendre le pays. Ils étaient que 52% en 2005. Alors, donc c'est une fonction politique interne naturellement importante, comme ça avait été dit au départ. Mais je partage à moitié, si vous voulez, l'idée qu'il s'agit d'une instrumentalisation à des fins internes et de politique interne, parce que je pense que ça fait partie d'une réalité beaucoup plus de long terme que ça en Russie. Alors, il est probable que seront exigées des capacités de projection, hein, c'est parce que c'est elle qui marque la Russie comme puissance de retour sur la scène mondiale, et il est probable que seront exhibées des capacités stratégiques, que ce soit des missiles balistiques ou des bombardiers lourds. Vous parliez du discours de mars 2018 du président Poutine, c'était un discours majeur. Il avait identifié 4 types d'armes qui pourraient certainement être considérées comme nucléaires stratégiques. Le missile intercontinental ICBM RS-28 Sarmat, qui est développé depuis 2009, avec une insistance très forte sur ses capacités à tromper les défenses antimissiles. Ça, on est vraiment contre des capacités stratégiques défensives américaines, et on s'attend à un déploiement l'année prochaine, en 2021. Il s'agissait du missile Avangard, qui est présenté comme un planeur hypersonique, qui devra à terme être adapté d'ailleurs au missile RS-28 Sarmat dont je viens de parler. Alors, les essais de l'Avangard depuis 2018 sont très mis en scène.
Et deux autres types d'armement, donc.
C'est un peu son bébé. Celui-là, l'Avangard, c'est un peu son bébé, si vous voulez. C'est le symbole de la nouvelle puissance technologique. Et puis, il y a effectivement missile de croisière à propulsion nucléaire et puis la torpille autonome Poséidon. Alors, ces nouveaux
donc
systèmes.
Donc, une panoplie, pardonnez-moi, mais nous arrivons vers la conclusion de cette émission. Donc, nous aurons l'occasion, avec vous, j'espère, de revenir sur ce que l'on verra ou non sur la Place Rouge le 24 juin prochain. Mais je voudrais vous demander, Tatiana Kastoueva-Joran, est-ce que la conjonction de ces crises, le double choc dont nous parlions, le choc économique, le choc sanitaire, est-ce que l'emprise de Vladimir Poutine sur la société russe est, à votre avis, affaiblie ou en tout cas menacée, même si, comme nous le rappelait Françoise Dosset, on ne voit pas guerre d'opposition se dresser contre lui?
La réponse ne sera pas simplement oui ou non. Elle est plutôt très nuancée. D'une part, très clairement, il y a quand même une érosion de la popularité de Vladimir Poutine, y compris au sein de son électorat qui, traditionnellement, vote pour lui. Et là-dessus, la gestion de la crise, les Russes, le pays est ouvert, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent comment la crise est gérée ailleurs. J'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux circuler les informations que tel ou tel pays occidental verse des aides directes et que notre gouvernement ne fait rien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des PME, PMI, qui vont garder quand même une rancune à cause de la gestion de cette crise. Pour l'anecdote, mais c'est assez significatif, il y a eu une série qui a été lancée sur 20 ans de Vladimir Poutine, 20 séries, et après les trois quarts, la série s'est arrêtée parce que ça faisait
beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux, notamment quand Vladimir Poutine a dit que il appartient à la classe moyenne, toute personne qui gagne 17 000 roubles, c'est équivalent à peu près de 250 euros. Donc il y a un décalage entre le discours de Poutine et la réalité. Cette érosion date de l'annonce de la réforme de retraite et elle continue. L'actuelle crise n'a pas contribué à l'arrêter, à la stopper. Mais en même temps, c'est un régime qui a énormément de résilience, de capacité de surprise, etc. Il est probable que Vladimir Poutine annonce un grand plan relance économique, etc. Parce que l'argent, en réalité, il y en a. Il y en a dans les réserves de change. J'ai regardé même entre le 15 mars et le 15 mai, ces réserves de change, notamment le Fonds de bien-être national, il a augmenté de 45 milliards de dollars, ce qui est absolument impressionnant. Pendant la crise, vous avez ces coussins de sécurité qui gonflent et on ne les dépense pas, on les garde pour quelque chose. Et à mon avis, comme a dit Julien Vercueil, c'est en prévision de la durée de la crise. Donc Vladimir Poutine, les Russes ne voient pas d'alternative. C'est ça aussi, pendant deux décennies, en fait, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas d'alternative crédible. L'opposition russe, vous avez posé la question là-dessus, Navalny a essayé de monter un programme pour la Russie en 5 points, justement en incitant le gouvernement à verser des aides directes à la population et aux entreprises. Ça a eu un certain succès sur les réseaux sociaux, plusieurs milliers de signatures. Et en même temps, vous avez les gens qui ne sont pas des assidus des réseaux sociaux, qui sont même pas au courant que ce genre d'initiative existe. Donc voilà, pas d'alternative. Peur de voir le système déstabilisé, de retomber dans les années 90, même si, comme disait Françoise Dossé, il y a déjà un petit air de cette époque avec l'accumulation de différentes crises depuis le début d'année. Mais néanmoins, je pense que le système Poutine a encore pas mal de ressorts et un stock de résilience assez impressionnant.
Un dernier mot, Tatiana. L'enjeu, manifestement, a été pour le Kremlin de prouver, dès le départ de la pandémie, la supériorité de son modèle par rapport aux démocraties occidentales, américaines ou européennes. Est-ce que, selon vous, la preuve est faite ou non?
Je ne pense pas. Et en fait, en réalité, la stratégie qui a été adoptée, c'est la stratégie européenne de gestion, de confinement. C'est pas tellement la stratégie autoritaire chinoise. Comme je disais au début, on a vu les choses assez inhabituelles, la délégation de prise de responsabilité au gouverneur, etc. Bon, la gestion économique est très différente. Donc, la supériorité, je ne crois pas. La résilience, certainement.
Eh bien, merci. Merci à vous, Tatiana Kastoueva-Jean. Je rappelle que vous avez publié chez Taillandier, avec une mise à jour qui est prévue à l'automne prochain, « La Russie de Poutine en 100 questions », un ouvrage bien utile. Je remercie bien sûr Françoise Dossé. Vous avez écrit « Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine » aux éditions Bordelot en 2016. Julien Vercueil, vous avez publié au Seuil « Économie politique de la Russie » 1918-2018. Benjamin, haute couverture, je recommande plusieurs articles récents de la Fondation pour la recherche stratégique, avec un site extrêmement fourni sur l'impact de la crise sanitaire sur les questions stratégiques nucléaires en Iran et en Corée du Nord en particulier. Je remercie Michel Zlotowski qui a traduit les propos d'Irina Lagunina, co-directrice de Radio Svoboda. À la réalisation ce matin, Luc Jean Reynaud, que nous retrouvons avec plaisir. À la technique, Jacques Hubert. Hugo Boursier a préparé avec moi cette émission, comme chaque semaine et comme chaque samedi. Voici Hervé Gardette. Très bon week-end sur France Culture, bien sûr. À samedi prochain.